vide, l'immensité.
Vous passerez un petit coup de fil de là-bas.
Allô la planète, Éric Lange, France Inter. France Inter.
La différence.
15h03, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Salut Daniel, salut toute l'équipe. Je me disais un truc en écoutant l'émission d'hier là sur l'EHPAD. France Inter, c'est un petit peu une radio publique, non? Alors, vous aussi, je suppose que vous avez la photo de notre cher président dans votre studio. Oh, est-ce que ça doit être bien. Bon, bonne journée à tous et vivement la suite de cette émission.
Ouais, une réaction après avoir entendu, c'est le chef d'état-major des armées qui se plaignait qu'on ait dépensé 10 millions d'euros pour essayer de sortir les deux journalistes de FR3. Ça attire l'attention sur le coût d'un journaliste et le coût d'un militaire. Je voudrais bien savoir combien ça coûte une journée de présence en Afghanistan à l'ensemble des Français, juste pour savoir. Là. Puis c'est pareil, là, quand je verse à côté de chez nous, quand ils font boum boum avec des tirs de mortier, ça serait intéressant de savoir combien ça coûte aussi. Mercredi 24 à 19h à Marseille, à l'Équitable Café, il y aura le repère de Marseille avec une projection sur la lutte des Nestlé à Marseille. Et samedi 27 à 15h à Montauroux, aux Estérés du Lac, chez Hervé, il y aura le repère de Montauroux. Allez, ciao Yves, portez-vous bien.
Oui, c'est Jeanne de Montreuil. Et je voulais dire qu'il a complètement pété les plombs, hein, le maire de Tourcoing, parce que le couic à Lal, bah, on y va si on veut, et si on n'a pas envie, on n'y va pas. Mais il me semble que ça fait très très longtemps qu'il y a des restaurants cachers dans de nombreux endroits, et ça ne gêne personne. Alors le couic à Lal, je ne comprends pas d'un seul coup pourquoi ça déclenche des tempêtes pareilles. Je trouve ça imbécile et dangereux. Voilà, je vous embrasse tous. À plus tard.
Bonjour, je viens de subir, je dis bien subir votre émission une fois de plus parce que je roule toujours avec France Inter. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Parce que je fais beaucoup de routes. Je fais partie des gens qui sont tout le temps sur les routes pour mon métier. Je suis donc indépendant. Donc j'en bave, je n'ai même pas le temps de prendre des vacances, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 20 ans que ça dure. Mais ce que je déteste dans notre émission, c'est que c'est toujours présenté en négatif, toujours en négatif. Comment voulez-vous que les Français aient le moral? Vous commencez en faisant une émission et en critiquant ce qui va être fait, vous ne savez même pas ce qui va être fait à propos de la défense. Mais c'est quelque chose d'incroyable, ça. Vous seriez sous Mitterrand, il y a longtemps que vous aurez fermé l'ordinaire, je crois. Hein, parce que moi, j'en connais des journalistes qui ont été virés par M. Mitterrand parce qu'ils n'avaient pas ses idées. Voilà. Eh bien, vous ne l'avez pas été. Donc, je crois que vous devriez être un petit peu plus délicat. Voilà. Au revoir.
Oui, bonjour à tous. C'est José-Louis Perpignan. Voilà, je viens d'écouter l'émission là, sur le projet de la défense là, à l'EHPAD. Là. Ça m'a vraiment, ce projet m'a ébloui. Et j'aurais voulu donner de mon temps libre, mais par contre, je ne sais pas comment faire. J'ai vraiment envie de donner du temps libre pour ce projet. Et on en profitera pour tourner Shrek 5. Je vous remercie. Au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. Depuis le 12 octobre, 32 intérimaires sans papier de Multipro sont en grève pour obtenir leur régularisation. L'employeur, pour lequel certains grévistes travaillent depuis des années, prétendent pas les connaître et refusent toute discussion à propos de promesses d'embauche. Vendredi dernier, les grévistes et leur soutien avaient décidé de manifester devant l'agence Multipro comme ils l'avaient déjà fait à plusieurs reprises. Mais la patience de l'employeur avait dû atteindre ses limites, puisque cette fois-ci, une vingtaine de gros bras ont débarqué, casque de moto à la main, en menaçant les manifestants. Plusieurs grévistes et soutiens ont été bousculés violemment et jetés à terre. Malgré l'arrivée des forces de police, une militante a eu le coude fracturé. Des plaintes ont bien sûr été déposées. Les grévistes ont subi des propos racistes, tandis que leurs soutiens s'entendaient crier que c'était une honte de voir des Français être avec ceux-là. Un rassemblement est organisé mercredi à 17h30, place de la Nation. Voilà, c'était Anne-Claire du comité de soutien unitaire aux sans-papiers du 20e arrondissement. Mercredi, 17h30, place de la Nation, aux côtés des travailleurs sans papier. Au revoir, merci.
Bonjour Marilyn, j'appelle à propos du message que je viens d'entendre concernant le quick où ils ne font des produits halal. Moi, je propose qu'on porte plainte contre tous les restaurants en France qui ne fournissent pas de nourriture halal parce que, discrimination, les musulmans pratiquants ne peuvent pas aller manger dans ces restaurants puisqu'il n'y a rien d'halal. Voilà, c'était juste en passant, vaut mieux en rire, parce que ça donne envie de pleurer plutôt qu'autre chose, mais bon, voilà, c'était Marie-Lise.
Et une petite pensée de Jacques Prévert, par les temps qui courent, cela fait pas de mal. Le ministère des Finances devrait s'appeler ministère de la misère, puisque le ministère de la guerre ne s'appelle pas le ministère de la paix. Je vous embrasse tous. Salut à toi, Daniel. Continue ta route. C'était Chantal de Paris.
Merci, chers AMG et AMGE, pour tous ces messages. Merci pour les réactions au sujet du Quick Halal de Roubaix. C'est toujours, un jour, on fera une émission spéciale sur la non-compréhension. C'est très drôle de lire vos messages. Enfin, certains sont drôles. Vous réagissez à côté de ce qui a été dit. C'est très drôle. Quelqu'un a dit « Ah oui, tu fais l'apologie de Quick ». Hier, j'ai absolument pas fait l'apologie de Quick. Mais voilà, il y a d'autres réactions comme ça. Un jour, on fera un spécial non-compréhension. Aujourd'hui, en tout cas, je vais consoler cette auditrice qui dit qu'on est toujours négatif. On n'est pas toujours négatif. Là, on va parler d'un grand projet français de notre président Nicolas Sarkozy. Voilà, ça c'est positif. Le plan Défense 2015, une extension formidable de la défense, des quantités de tours, 15 tours en construction, en rénovation, une tour de 300 mètres de haut au moins, etc. C'est formidable, non? Voilà. Eh bien oui, on est tout à fait heureux. Et il se trouve, alors là, on se demande bien comment on les a trouvés, c'est Pascal Pascariello, qui a trouvé des gens pour trouver qu'il s'agissait d'un hold-up territorial. Un hold-up territorial, car l'extension de la défense sur la ville de Nanterre va entraîner 320 hectares qui vont être pris sur cette ville de Nanterre. Et évidemment, et voilà, des gens qui sont pas modernes du tout, notamment le maire de cette ville, qui n'apprécie pas du tout de se voir ainsi dépossédé. Hold-up territorial. C'est notre thème d'aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, c'est François. Écoute, là je sors de la conférence de presse de PMO, pièce et main d'œuvre, qui se déroulait à Paris. Et on avait prévu avec Pascal ce soir de faire un reportage au dernier débat organisé par la CNDP, la Commission nationale pour le débat public sur les nanotechnologies. Mais finalement, il n'y aura pas de reportage. C'est un reportage annulé, puisque la CNDP ne fait plus de débat public, mais elle le fait sur carton d'invitation. Et ni Pascal ni moi n'avons reçu carton d'invitation. Et les camarades de pièces et manœuvres n'ont pas non plus reçu carton d'invitation. Donc il n'y aura pas cette habituelle confrontation entre les organisateurs et les militants. Les militants qui, bien qu'ils n'avaient pas 3 millions d'euros de budget pour organiser les débats, ont réussi à s'imposer, soit par l'imposture comme un Clermont-Ferrand, soit en faisant beaucoup de bruit comme un Grenoble, à faire annuler un certain nombre de débats. Donc la CNDP a décidé de les annuler d'elle-même, ou de faire des débats virtuels sur Internet. Donc il n'y aura pas ce reportage, mais en revanche, on peut aller assister à un débat vraiment public. On ne vous demande pas vos papiers à l'entrée. Vous n'êtes pas fouillé, il n'y a pas de vigile sur les nanotechnologies organisées à la coordination des intermittents et précaires. Donc c'est 14 quai de Charente dans le 19e à Paris. Ce mardi soir à 20h, 14 quai de Charente dans le 19e arrondissement à Paris, entre autres sur la tyrannie technologique avec pièces et manœuvres. Bon ben voilà, salut Daniel, ciao.
Oui, salut Daniel, salut toute l'équipe. Je voudrais faire une réponse à l'universitaire qui dit qu'aujourd'hui, donc sur le répondeur, que les universitaires peuvent bloquer les jurys du bac. Effectivement, tous les jurys du bac doivent être sur le papier présidés par des universitaires. Moi, j'ai été chef d'établissement pendant de nombreuses années, organisateur de baccalauréat. Les universitaires ne se déplaçaient jamais. Et ils étaient de fait remplacés par le vice-président de jury, qui était un professeur du secondaire en général. Donc a priori, leur menace de bloquer le bac, ça devrait pas marcher. Bon, enfin voilà, c'est une info.
Bonjour à tous, c'est Domino de Bayonne. Voilà, petite histoire, 3-4 ans de ça, la raffinerie de Boucau, à côté de Bayonne, a été fermée. On a mis 70 camions sur la route qui remontent à Bordeaux ou en Espagne pour aller chercher du gasoil. Et aux employés, on leur a dit, ben voilà, on vous propose un poste à Dunkerque. Et donc certains ont refusé, et puis ben voilà. Et d'autres ont accepté, ils ont pris leur petite famille et ils sont partis à Dunkerque. 3-4 ans plus tard, rebelote. Bonne journée à tous. Au revoir.
Alors la Défense, c'est donc près de 3 millions de mètres carrés de bureaux, 150 000 emplois, 10 120 logements, dont 36% de logements sociaux, 2600 chambres d'hôtel, 1500 entreprises, dont 14 des 20 premières nationales françaises et 15 des 50 premières mondiales.
Alors là, c'est le bureau du directeur. Qui domine toute la Défense, on voit l'arche de la Défense.
Avec ce que nous appelons, nous, la tour Areva, cette magnifique tour noire qui domine la Défense, les tours Total, la tour de GDF Suez, SFR, Elser Young, et puis cette magnifique tour d'EDF. Et je sais que moi, je suis très, très, très amoureuse de cet espace, parce que je trouve que c'est le seul endroit dans Paris où vous avez ce contact avec le ciel, comme ça, qui vraiment déborde.
Mon bureau est une bulle suspendue au 12e étage d'une tour de la Défense.
Skyline.
Oui, c'est ce qu'on appelle ça, le skyline. Tout le, comment dirais-je, le toit de la Défense. Comment on peut dire ? J'ai pas la traduction. Hein, la ligne d'horizon.
Ligne d'horizon.
C'est ça.
Notre salle de marché au 27e étage, qui est un étage double hauteur, dominant Paris. Voilà. Effectivement, on s'est dit qu'une salle de marché devait avoir une vue acceptable, une vue même magnifique. En venant, on voit la tour, on rentre dans la tour, on la touche. La Défense, vous la voyez, vous la touchez. Voilà. Hein, bon.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis avec Pascal Pascariello. L'EHPAD, c'est épatant.
Flight number 2, arriving from New York.
Les tours sont toutes avec du vert, et donc le ciel bleu avec les petits nuages se reflète dedans. La dalle est dans une espèce de gris bleu. Enfin, il y a une unité de ton qui est extraordinaire. Moi, je trouve ça très beau.
Il y a une unité de personnes aussi, j'ai l'impression. Dès qu'on arrive ici...
Ah ben c'est beaucoup cravate, costume cravate. Hein. Et puis petit talon pour ces dames alors qu'il fait froid. Comme moi j'ai mes chaussures de randonnée, que je suis bien contente.
On est trois promeneurs, on détonne un peu là dans le quartier de la Défense.
Où est-ce que tu dois...
À Tour Total, à notre gauche. À côté de EDF.
Ben oui, la Tour Total. D'accord, c'est une tour, voilà. Mais c'est le siège social de Total, qui est une entreprise du CAC 40, extrêmement riche et prestigieuse. Par exemple, Thierry Desmarais, qui a beaucoup d'autres responsabilités par ailleurs. Rien qu'en tant que PDG de Total, il a touché plus de 2 millions d'euros de salaire pour un an. Et je ne parle pas évidemment des dividendes qu'il reçoit des actions. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans le domaine de la finance, des affaires au plus haut niveau, on est vraiment sur une autre planète que celle de l'économie réelle, du monde des salaires.
Moi, cette somme-là, j'arrive même plus à concevoir combien de temps il me faudrait ou combien de vie il nous faudrait pour arriver à cette somme-là.
On peut donner une indication avec Christophe de Margerie, qui est le directeur général. Alors, Christophe de Margerie a des bonus plus élevés. Au total, c'est 2 800 000 euros. Alors, 2 800 000 euros, ça représente 2500 années de SMIC.
2500 voilà. Années de SMIC.
Non, et c'est que son salaire. Ça ne concerne pas, toujours pareil, ses actions, les dividendes qu'il peut en retirer. On a une chape de plomb à laquelle on ne pense pas. Hein, on vit dans le quotidien sans y penser.
Sauf qu'on vient à la Défense. Parce que, justement, la Défense, ce n'est pas par hasard que ce sont des tours élevées. Ce n'est pas par hasard que ça a un aspect imposant. Ça fait partie du pouvoir symbolique. Et il faut, lorsqu'on est au sommet d'une société, il faut... Le roi avait d'autres systèmes. Ici, c'est plutôt les tours de bureau qui... Enfin, c'est en partie les tours de bureau qui jouent ce rôle. Il faut en imposer. Et pour en imposer ici, on en impose par le nombre d'étages et la majesté des lieux.
Je me souviens lorsque mon bureau était au 5e étage de la maison de la radio, on disait « Ah, en haut, ils ont décidé que en haut, c'était les directeurs, le président. » Oh, c'était au 4e, c'était en dessous, mais pour nous, c'était en haut. Et effectivement, c'est toujours comme ça. Le dominant domine aussi dans l'espace, aussi dans la construction. Il est plus haut. Et si on se fait une idée de ce qu'est la domination, la défense s'en donne une image parfaite, moderne, et copiée. Et copiée, c'est quand même le petit Manhattan français où nous sommes, ce lieu effectivement un peu hors sol qu'admire Monique Pinson-Charlot, que vous avez reconnu, et son époux Michel qui nous accompagne ou qui nous guide un petit peu dans ce dédale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont longuement travaillé sur la fortune, sur la richesse, sur les beaux quartiers, et que la Défense est inscrite évidemment dans ces beaux quartiers, et même en est une des sources, en est l'une des vaches à lait, pour tout dire. 160 hectares, 3 350 000 mètres carrés de bureaux, 150 000 salariés pour 2500 entreprises, dont plusieurs du CAC 40, on vient de l'évoquer, Total, Dexia, EDF, Société Générale, Saint-Gobain, France Télécom, etc. Plus 20 000 habitants qui sont là-dedans, coincés entre tout ça. 600 000 mètres carrés de logements, 200 000 mètres carrés de commerce, ça en impose. Et tout ça est géré par l'établissement public pour l'aménagement de la défense, c'est-à-dire l'EHPAD, créé en 1958 par le bon général de Gaulle. L'EHPAD, on en a entendu parler très récemment avec la nomination, hélas avortée, du fiston de notre président, provisoirement suspendu. Mais vous ne perdez rien pour attendre, amis riches. Alors, je disais tout à l'heure que notre président de la République avait cette idée géniale d'un grand plan pour la défense 2015 avec une extension, une ambition. C'est très ambitieux, c'est très promoteur, c'est très moderne. Et donc, ça nous plaît. Voilà que Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson-Charlot parlent d'un hold-up territorial. Qu'est-ce qui fait dire ça à des gens aussi sérieux que ces grands sociologues? Eh bien, c'est que l'extension de ce magnifique projet, c'est 560 hectares supplémentaires qui seraient pris sur la commune de Nanterre, ce qui, je le disais, ne plaît pas vraiment au maire de cette ville de Nanterre. Alors voilà l'enjeu d'aujourd'hui. On va passer une heure avec des vedettes politiques formidables comme monsieur Patrick Balkany, comme monsieur Charles Pasqua, qui traverseront cette émission, sans compter bien évidemment monsieur Sarkozy et son fils. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. L'EHPAD, c'est épatant.
Au 33e étage, la vue est si belle, je me sens pousser des ailes. Au 38e étage, c'est vraiment génial, celle-là, direction générale. Au 34e étage, ils sont à Tillon, c'est le contrôle de gestion. Au 36e étage, ils sont pas peu fiers, celle-là, direction financière. Au 29e étage, sur eux tu peux compter, celle-là, comptabilité. Et au 2e étage, c'est les moins que rien, c'est le service entretien. Dans ma grosse boîte, l'air est un peu moite, l'hôtesse adorable, les sièges éjectables. 33e étage, c'est déjà pas mal pour mon âge.
Mais depuis qu'on s'est fait racheter par la tour d'à côté, j'ai du mal à motiver. L'assistante du DRH me mate d'un air bravache, mais depuis qu'on a couché, je peux plus rien lui demander. Entre cadres, quand on discute, c'est pour savoir si l'action chute et combien on peut toucher comme indemnité.
Toute la question qui est posée, c'est: est-ce que notre génération,
Nicolas Sarkozy,
nous saurons être à la hauteur de ceux qui nous ont précédés?
30 juin 2009.
Il y avait ici, dans les années 60, un bidonville. On traversait pour aller à Colombes, parce qu'à l'époque, quand on allait voir les matchs, c'était là-bas, Monsieur Jarry. Et franchement, ce qu'on traversait, c'était pas un exemple architectural. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui le regrettent, moi pas. Et ils ont fait, sur rien, quelque chose de visionnaire. Parce que la défense était à l'avant-garde quand ils l'ont décidé. Et la France était parmi les premiers pays à réaliser un quartier de grande hauteur avec une concentration d'activités économiques. Et la défense, c'est pas du tout un atout pour l'Ouest, c'est un atout pour toute la région Île-de-France. La défense n'est pas en concurrence avec l'Est de Paris, ou avec telle ou telle commune, ou avec Paris. La défense est en concurrence avec Barcelone, avec Londres, avec un certain nombre de grandes capitales dans le monde. Moi, je souhaite qu'on bouscule les calendriers, parce que le monde bouge, parce que nous ne pouvons pas être en retard, et parce que nous avons besoin les uns des autres. C'est tout.
Alors, on pourrait reprendre l'histoire de la manière suivante. En 2004, Nicolas Sarkozy est élu président du Conseil général des Hauts-de-Seine. En 2005, et c'est la première fois, il est élu président de l'EHPAD. C'est la première fois qu'un président du Conseil général des Hauts-de-Seine cumule la fonction avec la présidence de l'EHPAD. Donc, si vous voulez, là, on voit bien qu'il marque un intérêt tout à fait particulier à la défense. Ensuite, c'est la cerise sur le gâteau. En 2006, il justifie la construction de 450 000 m² supplémentaires de bureaux à la défense, alors qu'il a une troisième casquette, il est ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. Donc évidemment, c'est facile, en étant président du Conseil général, président de l'EHPAD et ministre de l'Intérieur, d'aboutir à la nouvelle construction de ces 450 000 m² supplémentaires de bureaux à la Défense, qui représentent tout de même un chiffre d'affaires entre 4 et 5 milliards, dont 1 milliard à peu près de bénéfices de droits à construire pour l'EHPAD.
Milliard pour l'EHPAD.
Voilà, donc on n'est pas du tout dans les petits sous de la ménagère. Donc voilà, il n'y a pas de petits profits pour les grands de ce monde, il n'y a pas de petits profits pour ces territoires d'exception sur l'axe historique, sur cet ouest de Paris, de la banlieue parisienne. Ça me fait penser un peu à la ruée vers l'or.
Ou à la ruée vers l'ouest. Eh oui, vous le connaissez, cet axe. Cet axe qui part, si vous connaissez Paris, vous n'êtes pas obligé de connaître Paris, mais enfin, si vous connaissez un petit peu, cet axe qui part des Jardins des Tuileries, qui va à l'Étoile, qui traverse Neuilly, la Défense où nous sommes, puis Nanterre, puis Chatou, puis au milieu de la forêt Saint-Germain-en-Laye, de Saint-Germain-en-Laye, la Croix de Noailles. Ça, c'est l'axe, non pas l'axe du mal, mais l'axe de l'ouest, ruée vers l'or, ruée vers l'ouest. Vous entendez nos amis sociologues comme ils se réjouissent, ils sont heureux avec ce président. Parce qu'avec ce président, avec son côté bling bling, nouveau riche, népotisme et tout, là, il n'y a plus de capot. On voit marcher le moteur. Et pour eux, qu'on dit du mal, parce que dans le monde, c'est plus feutré, c'est plus souple, c'est plus opaque, ça se ferme un petit peu dans les... Là, on y va franco, on y va cash, et c'est vraiment le pognon et le pouvoir sans complexe aucun, et ça fera, j'espère, avancer la compréhension du système. C'est ce que nous essayons en tous les cas de faire dans la basse J'y suis. Vous l'avez adoré hier, c'est monsieur Philippe Chex, qui est le directeur général de l'EHPAD, qui a reçu façon un petit peu sèche, notre Pascal Le Pascariello. Elle l'avait auparavant rencontré lors de la cérémonie des vœux du département.
La Défense, c'est un accueil économique majeur, un moteur économique majeur. Et donc, comment ça marche ? Dans un aménagement comme la Défense, il y a 4-5 décisions importantes à prendre par an. Je fais cette tour, je la fais pas. Voilà. Et ça, c'est de la stratégie. Le mot clé de mon métier, le mot clé absolu de mon métier, c'est vision. Vision. Moi, ce que je suis...
Vision.
Vision.
Vous reprenez un...
Je vais reprendre un whisky, moi.
Oui.
Merci. Sans glace. J'ai comme mission de développer sur les 15 à 20 ans à venir l'ensemble du territoire qui va, comme on le dit, de la Seine à la Seine.
Quand vous dites de la Seine à la Seine, on s'entend bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme un axe historique qu'on a envie de retracer, justement?
Et ça,
on...
Il est tracé. L'axe historique, c'est Henri IV.
Louis IV.
C'est d'abord Henri IV. Il va à la chasse à Saint-Germain-en-Laye. Il tombe dans la Seine un soir. Ça l'énerve, on le comprend. En plus, il est avec la reine. Il tombe. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il fait deux choses. Il dit à ses architectes, vous me faites une ligne droite du Louvre, où il habitait, à Saint-Germain-en-Laye, droit devant. Donc ça passe par la Défense. Et vous me faites un pont en bois sur la Seine. Et on fait ça. C'est là le début de la Défense.
C'est de cet axe dont s'est inspiré Nicolas Sarkozy pour faire le Grand Paris aussi, pour dire qu'il faut reprendre...
Évidemment. Évidemment. Il n'y a qu'à regarder.
Quoi ?
Bye.
Bye, vous partez ?
Je vais saluer et je m'en vais.
D'accord. Et dites-moi, rassurez-moi, Nicolas Sarkozy n'est pas tombé dans la Seine pour avoir envie de refaire l'axe historique.
Non, c'est Henri IV qui est tombé dans la Seine. Et le pont en pierre, c'est Louis XV.
D'accord.
Sauver la face, faire bonne figure et montrer qu'après avoir dû renoncer à la présidence de l'EHPAD,
France Inter,
il a déjà tourné la page, c'était l'objectif de Jean Sarkozy ce matin.
23 octobre 2009.
Alors promis juré, il ne regrette rien.
Non, c'est pas un échec, c'est une épreuve. Je regrette pas d'aller au combat. Aujourd'hui, je suis entièrement tourné vers l'avenir de ce quartier d'affaires et de ce département.
Alors en parlant de l'avenir et du département, eh bien ce matin, Jean Sarkozy n'a pas voulu dire s'il avait l'intention de briguer la présidence des Hauts-de-Seine en 2011. Mais à l'évidence, le fils du chef de l'État n'a pas renoncé à ses ambitions. À écouter Isabelle Balkany, vice-présidente du Conseil Général et marraine politique de Jean Sarkozy, le coup de théâtre d'hier soir serait même l'acte fondateur de sa carrière.
Après la démesure des attaques qu'il a subies, il a montré la sagesse. Il n'y a eu aucune porte de fermée, au contraire, il y a eu une porte ouverte. Vers l'avenir politique d'un jeune homme qui a fait la preuve de sa maturité, de sa responsabilité.
Dès ce matin, le secrétaire d'État au logement, Benoît Apparu, a en effet indiqué que la présidence de l'EHPAD pourrait temporairement être confiée à l'un des fonctionnaires du conseil d'administration. Cette solution permettrait à l'Élysée de garder la main sur l'avenir de la Défense et des Hauts-de-Seine.
Voilà, un document qui nous rappelle des moments récents. Alors... quand même, on se dit, mais pourquoi veulent-ils tous cet EHPAD ? Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça risque de rapporter ? Qu'est-ce qui peut justifier une telle convoitise ? Nous retrouvons Hélène Constanti.
On a intitulé un chapitre « La défense cache-machine du 9-2 ». Et effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Le département des Hauts-de-Seine, est-ce qu'il est en raison du quartier d'affaires de la Défense ? Le département des Hauts-de-Seine est le plus riche de France après Paris. Hein. On considère, il faut toujours préciser que c'est après Paris. Et donc le département des Hauts-de-Seine a, en 2009, un budget de 1,8 milliard d'euros. Qui est considérable et qui est notamment généré par l'activité économique, à la fois la taxe professionnelle générée par les entreprises et les entreprises de la Défense tout particulièrement, et par des sommes qui sont dues aux droits de mutation. C'est-à-dire, donc tout ça, c'est lié à l'activité économique et à l'immobilier. Les droits de mutation, c'est dès qu'un bien immobilier change de propriétaire, une taxe est versée à la ville. C'est ce qui a fait la fortune des Hauts-de-Seine hein, au début des années 2000. En 2007, ces droits de mutation étaient colossaux. Ils avaient atteint 400 millions d'euros pour le département de les Hauts-de-Seine. Ils ont beaucoup baissé avec la crise économique en 2008 et 2009. Mais c'est conjoncturel. Ils peuvent très bien repartir à la hausse. Imagine lorsqu'une tour entière change de propriétaire, ça fait un argent fou qui tombe dans les caisses du département des Hauts-de-Seine.
Et ce département des Hauts-de-Seine est le plus riche de France, faut-il le rappeler. Mais faut-il encore qu'il reste le plus riche de France? Bah bien sûr, il faut rester riche. Alors là, on aurait pu faire un bruit de casserole, puisque nous sommes nous sommes dans ce cocktail non loin de Monsieur Patrick Balkany.
Le département, il est riche avant tout de ses sociétés, de ses entreprises, mais pour qu'il reste un département riche, il faut qu'on s'occupe bien entendu du développement des entreprises du département, de faire la promotion de la défense. Il faut l'étendre parce que ce qui stagne recule et nous avons besoin d'encourager le développement et donc d'étendre la défense qui commence à étouffer dans son périmètre. Ça me paraît tout à fait logique.
Vous parrainez, entre guillemets, Jean Sarkozy, vous l'avez soutenu.
Jean, bien sûr, il est jeune. Jean, il a tout le temps devant lui. C'est un garçon qui a beaucoup de talent. Vous savez, je crois que le devoir de tout élu, c'est d'essayer de faire émerger de jeunes talents. Je rappelle simplement que les anciens maires que nous sommes, les anciens élus comme De Vedjian, moi-même, comme d'autres, ont été ce qu'on a appelé à une époque les jeunes Pasqua Boys. Pourquoi ? Parce que Charles Pasqua, lorsqu'il était en charge, à l'époque du RTR, du département, il a voulu que des jeunes soient candidats, se présentent, se fassent élire. Et c'est ce travail que un certain nombre d'entre nous continuons à faire en faisant rentrer des jeunes dans nos équipes et en pensant simplement au renouvellement et à l'avenir.
Madame, que désirez-vous savoir ?
Monsieur Pasqua.
Pardon ?
Monsieur Pasqua.
Hein ?
Monsieur Pasqua, je travaille pour France Inter.
Oui.
Par rapport au quartier de la Défense, par rapport à tout ce qui s'est passé justement par rapport à l'EHPAD, on a tenté de mettre Jean Sarkozy. Vous en pensiez quoi ? Vous étiez plutôt pour...
Je crois que tout ça aurait pu se faire beaucoup plus tranquillement. Ce qui compte, c'est le plan de développement et ça se fera.
C'est-à-dire ?
C'est normal. Je veux dire par là qu'on ne peut pas avoir une part de développement sur le quartier de la Défense et à côté des dizaines d'hectares où il se fait autre chose. Donc c'est une entité. Pourtant, si le président de la République maintient son intention qui consiste à dire qu'il faut faire un pôle financier, en réalité, il faut aller bien au-delà. Et ça se fera, de toute façon.
Ça se fera. Parce qu'on entend un peu le maire de Nanterre, Patrick Jarry, dire « Non, vous n'allez pas me prendre... »
On ne peut pas s'opposer au progrès et au développement. C'est inscrit dans les astres. Où Nanterre se développe, où ça périclite, et ça disparaît. Voilà. Nanterre a intérêt à s'associer à ça pour mettre en marche. Même s'il ne veut pas s'y associer, ils y seront contraints. L'État procédera par décret.
Béton armé, soleil en berne. Homme des nouvelles cavernes, voilà ce que nous devenons. Dieu pardonnez-moi si j'en tremble. J'avais rêvé de grands ensembles.
Ensemble est un si joli nom.
Du ciment à l'horizontale, du ciment à la verticale, et puis le vacarme têtu. Ces grands ensembles sont si rudes que je rêve de solitude comme d'un paradis perdu. Béton armé, soleil en berne, homme des nouvelles cavernes, voilà ce que nous devenons. Si vous n'y mettez pas bon ordre, mon Dieu, la vie si bonne à mordre ne méritera plus son nom.
Petite précision quand même, plusieurs fois la Cour des comptes a dénoncé les liens trop proches entre l'EHPAD et les promoteurs dans ses rapports, les rapports de la Cour des comptes de 1992, oh c'est une histoire ancienne, 1998, oh c'est une histoire ancienne, enfin, et 2007 aussi. Bon, petite note au passage. Alors, venons-en au développement. Monsieur Pasqua vient de nous le dire, le développement, on ne s'y oppose pas, c'est écrit dans les astres, et de toute façon, il n'y a pas à tortiller, l'État procédera par décret. Donc, les choses ne sont pas si compliquées, sauf si Madame Constantine, Hélène Constantine, nous donne des précisions.
Oui, là, actuellement, il y a donc cette volonté de mainmise sur le territoire de Nanterre. Il faut se souvenir que, à la création de l'établissement public d'aménagement de la Défense, il était énorme. Il allait de la Seine, côté Neuilly, à la Seine, côté Nanterre. Ensuite, les relations ont été difficiles, puisqu'il y avait des communes de droite et des communes communistes. Et donc, un partage avait été réalisé en 2000. Donc, gouvernement Mitterrand, avec un communiste ministre de l'équipement. Donc, on a décidé que Nanterre allait avoir son établissement public d'aménagement sur la partie de la Défense qui concernait sa ville. Et les communes de droite, essentiellement Puteaux et Courbevoie, allaient aménager à leur manière avec leur établissement public. Aujourd'hui, donc, l'EHPAD est trop à l'étroit dans le périmètre du boulevard circulaire. On a fait le plein de tours. Et donc, il y a une convoitise énorme sur toute la partie qui est derrière l'Arche de la Défense, donc la partie côté Nanterre, où là, il y a encore des friches industrielles, il y a des petits ateliers, et c'est là, le futur de la Défense, c'est là-bas, c'est côté Nanterre. Et donc, le gouvernement a fait passer un décret il y a quelques mois, donc établissant un nouveau périmètre. En gros, l'EHPAD, et donc l'État, va mettre la main sur les deux tiers du territoire de la ville de Nanterre, où là, ce n'est plus la commune qui va décider des règles d'urbanisme, c'est l'établissement public.
Voilà Hélène Constanti qui est avec Pierre-Yves Lautrou, auteur de 9-2, le clan du président chez Fayard. Alors, quelle est la réaction du maire de Nanterre? On pourrait croire quand même que ce qui vient d'être dit, ce développement, cette extension, etc., ben, ça va constituer des emplois, de l'activité pour sa bonne ville de Nanterre. Au moins quelques miettes, Patrick Jarry, maire de Nanterre.
Évidemment, maintenant, on a l'expérience. Pendant des années, on nous a dit qu'il faut laisser se développer la Défense parce que ça fera de l'emploi, ça va aider tous les habitants de Nanterre, de vos communes, de Courbevoie, de Puteaux, etc. Bon, au bout de 50 ans, on peut faire le bilan. Donc le bilan, c'est que le développement de la Défense ne fait pas du développement local. Ça ne permet pas, par exemple, un développement de l'emploi pour l'ensemble des populations qui sont dans le secteur. À Nanterre, il y a 10% de chômage. Le taux de chômage est, sur ces 15 dernières années, toujours supérieur à la moyenne régionale. Et aujourd'hui, à Nanterre, 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est quasiment le double que la proportion dans la région Île-de-France. Il y a 3500 personnes qui officiellement travaillent à la Défense. 3500 personnes de Nanterre qui travaillent à la Défense.
Sur combien de personnes?
Sur 40 000 actifs, puisqu'il y a 90 000 habitants à Nanterre, un peu plus, mais donc la moitié sont des actifs. Il y en a 3 000. Donc, voyez, on est loin.
3 000 seulement salariés?
Oui. Ouais. Donc, évidemment, pour convaincre les Nantériens d'étendre la Défense, il faudra utiliser d'autres arguments. Et évidemment, les Nantériens, d'ailleurs, disent que, et ce que je dis avec eux, qu'au contraire, plutôt que d'étendre le quartier d'affaires la Défense, de rajouter des tours autour, en quelque sorte, dans une sorte de fuite en avant, donc il vaut mieux développer une multitude d'entreprises de toute nature, de toute taille, qui, au contraire, vont donner une diversité de l'emploi.
Moi, je sors pas mon chapeau du dimanche, ils vont se moquer de moi. Je me suis acheté un beau chapeau hier.
Dominique
Kalinski, je suis secrétaire générale de l'Union locale des syndicats CGT de la ville de Nanterre. Les activités de production sont en train de disparaître au profit des activités du tertiaire. Et notamment, le projet d'extension de la Défense nous fait des inquiétudes quant au nombre d'emplois qui seront possibles pour la population de Nanterre et de ses environs. Il y a des PME, mais il y a aussi des boîtes un peu plus importantes, notamment Panzani, la papeterie.
Ça, c'est... On est devant la papeterie, voilà, justement, de la Seine,
voilà,
qui est une entreprise où il y a combien de salariés?
100, me semble-t-il.
On va rentrer dans la papeterie, là.
Voilà, une petite entreprise de Nanterre. On est avec Dominique Kalinski de la CGT. Une petite papeterie avec des emplois menacés par le développement du quartier de la Défense.
Bonjour.
Alors ici, il y a 117 salariés. Moi, je travaille à la papeterie, donc au service maintenance, depuis 20 ans maintenant. comme il y a une grosse majorité des gens qui a une grande ancienneté, qui a pas mal d'années d'ancienneté.
C'est le groupe Smurfit Kappa. Voilà.
D'accord, vous aussi vous êtes vous travaillez
à la papeterie. Salarié depuis 21 ans à la papeterie de la Seine.
Vous avez en moyenne un salaire de combien?
Enfin, 3200 et, oui, et 2000 euros. Ouais.
Et 2000 euros, voilà.
Vous avez fait un tract, la papeterie de la Seine doit vivre. Les 120 salariés de la papeterie sont inquiets sur leur avenir. On sait que le groupe Veolia s'est porté officiellement acquéreur du terrain.
Il y a quand même combien d'hectares, rappelle-moi?
Il y a 15 hectares.
De Laurent Barre, hein, au niveau du prix du terrain au bord de la Seine, juste dans l'axe de l'Arche de la Défense. Et donc c'est à partir de là qu'on s'est inquiété et que notre maire aussi s'est inquiété, sachant que dans le même temps, on enlevait tout pouvoir aux élus de la ville de Nanterre sur le devenir de ces terrains. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à Nanterre, le niveau de qualification, il tourne autour du CAP, BEP pour une grosse partie d'entre eux.
Votre patron, José, vous signifie qu'effectivement, il risque de vendre l'usine.
Tout à fait. Du moins, les terrains, oui.
On est un peu dans le flou. Hein. On ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Hein.
Voilà.
Non, mais je veux dire, à la
fin du comment ils sont, mes camarades? Des petits cons, je te dis. Vous m'inquiétez parce que j'ai appelé les copains de Panzani qui, comme vous, sont éventuellement touchés. Ils me disent, oui, on a vu qu'il y a des architectes qui viennent dans le coin, ils prennent des mesures, nanani, nanana. Mais attendez, ils viennent pas là pour décorer. S'ils amènent des architectes, c'est qu'ils vont construire des nouvelles entreprises. C'est pas avec des boulots de papeterie ni des boulots de Panzani qu'il veut. Il veut des bacs plus X, des gens de la finance. Donc, vous allez dégager, les petits enfants. Et en plus, si au moins c'était des créations d'emplois, mais c'est que les entreprises viennent avec leurs salariés. AXA, quand ils sont venus là-bas à côté de l'Arche, ils sont venus de Paris ou de la Défense avec leurs salariés. La Paribas qui arrive, ils arrivent avec leurs salariés. Donc, quand bien même ça serait des emplois, c'est pas des créations. C'est pas des créations d'emplois. C'est ça notre problème.
Il y a un panneau devant le chantier de la tour. Ravi de vous accueillir sur le chantier CB31, Bouygues Bâtiment, rénovation privée. Toutes les envies naissent avec l'esprit libre.
Donc Jean-Marie Besson de Beacon Capital Partners. Beacon Capital Partners. Donc je suis le directeur général pour la France de la société d'investissement américaine qui a investi donc en programme de restructuration de la tour First à la Défense. C'est fantastique pour la Défense, le grand Défense de demain et le grand Paris de demain et d'après-demain. L'environnement compte, alors c'est pour ça qu'on a été très, très attentifs aussi. Notre salle de marché au 27e étage, qui est un étage double hauteur, donc de 8 mètres de haut, où on peut voir une salle de marché complètement dominante Paris. Voilà. Effectivement, on s'est dit qu'une salle de marché devait avoir une vue acceptable, une vue même magnifique.
D'accord, et là on domine vraiment tout Paris, c'est impressionnant.
Je trouve qu'on est, on a une vue maintenant sur le Mont Valérien, sur les boucles de la Seine. Bon, je crois que moi je suis surtout admiratif de la vue. Donc globalement, notre investissement sur cette opération en construction, c'est 300 millions. Voilà, sans parler du foncier.
C'est-à-dire le foncier, ce qui veut dire que vous avez acheté le terrain.
Alors ça, c'est un petit peu plus de 200 millions d'euros, à vue de nez.
Ça veut dire que du coup, l'EHPAD reçoit 200 millions hein, pour ce terrain. Au total, l'argent pour ce bâtiment, ça va faire...
Ça va faire un peu plus de 600 millions d'euros. On a l'opportunité de restructurer et de reconstruire une tour neuve à la base d'une tour qui était ancienne et je vais dire obsolète, et si possible d'équilibrer, voire de gagner un petit peu d'argent à l'arrivée. Raisonnablement, l'objectif c'est peut-être faire 50 millions d'euros, peut-être 70 millions d'euros de profit, ça peut même être entre 50 et 100 millions d'euros, je veux dire, sur un type de tour comme ça.
Vous voyez ? Ah oui ?
Ah oui.
Et dites-moi, est-ce que on peut dire que c'est de la spéculation ?
Ah oui, à l'arrivée c'est ça.
C'est un enjeu qui est pour les Nantériens, il faut se mettre à leur place, qui est un enjeu incroyable. Et nous, comme sociologues, on dit au fond, là, il y a une espèce de lutte de classe. Warren Buffett, lui, parle directement de guerre des classes et dit que ce sont les riches qui l'ont gagné. On est là face au champ de bataille de cette guerre. C'est-à-dire que tout se passe comme si les puissants, les dominants, voulaient poursuivre cet axe historique en éliminant tout ce qui va être populaire, logements sociaux, usines, papeterie ou autres fabriques de médicaments. Hein. Voilà, il va y avoir certainement des logements sociaux haut de gamme, bien sûr beaucoup de bureaux, puisque c'est quand même de l'argent qu'on cherche à faire rentrer. On peut parler d'un hold-up territorial quand même, parce que ça se fait avec beaucoup d'autoritarisme et très peu de concertation.
Hold-up territorial, alors bien sûr, nos sociologues, vous les entendez, peut-être que la papeterie, encore, c'est pas sûr. Mais par contre, à la Défense, bientôt, il y aura une salle des marchés. 3500 traders trouveront du travail à la Défense.
Donc là, on voit bien. Alors là, c'est tout le chantier, c'est la future salle, cet immense bâtiment.
Ouais.
C'est incroyable, on dirait en fait qu'ils sont en train de construire un immense parking sur plusieurs étages.
Moi, j'avais jamais vu un permis de construire salle des marchés, parce qu'il va y avoir 3500 traders. Et donc, c'est dire si les affaires de la Société Générale, malgré le trou provoqué par Jérôme Kerriel, de quand même 5 milliards d'euros, si je me souviens bien, se portent bien. À côté d'une petite école, Maxime Gorki, où il y a comme des élèves modestes. Donc, il est prévu 3500 traders. Donc, c'est un énorme chantier pour beaucoup, beaucoup de spéculations et de paris sur des produits dérivés. Là, à partir de ce feu, on va rentrer sur Nanterre.
Vous avez parlé des tours, là ?
Non.
Ce sont des tours de logement HLM. Sur la ville de Nanterre et les immeubles sont assez particuliers avec leur forme arrondie là, et avec des couleurs imitant un peu le ciel nuageux.
Ça pourrait même paraître des couleurs un peu de camouflage militaire,
ouais,
un peu.
Exactement, ouais, aussi.
Tout en arrondi avec des toutes petites fenêtres.
Mais quand même assez modeste par rapport à
aux grandes tours hein, qu'on a vues.
Ouais.
On arrive en face à l'école.
Pour les enfants et les jeunes de ces HLM, parce que là, tous les immeubles des Milayo, ce sont des HLM, c'est du logement social.
D'accord, toutes les tours qu'on voit derrière, ce sont des HLM. D'ailleurs, la salle des marchés en construction donne sur l'école.
Donne sur l'école, absolument. On voit bien, il y a les tours et Milayo, il y a notre école, les bâtiments de la Société Générale, plus toutes les tours de la Société Générale, si près des mondes si différents. C'est d'une violence symbolique pour les enfants de cette école, extraordinaire. Extraordinaire. On y va.
On y va ?
Oui.
Allez.
Allez, alors plus vite.
Ouais.
Toi, t'habites où ?
On la voit pas d'ici. Elle est derrière, là-bas.
Dans une des tours de la cité. Vous êtes tous à peu près des habitants des tours. Vous, vous préférez quelle tour ? Celle où vous habitez ou celles qui sont en face ? Les grandes tours de la Défense ?
Les tours rondes.
Les tours rondes, c'est celles où t'habites ?
Oui. On est à l'aise. C'est-à-dire, il y a des jours où il y a des trucs qui se jettent par la fenêtre, mais c'est un peu catastrophe, mais après ça va, c'est bien.
Je préfère les tours de la Défense là-bas. Il y a plus d'argent, il y a plus de commerce. Et ici, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a que la boulangerie.
Là-bas, il y a beaucoup trop de choses, il y a beaucoup trop de tours. Et ils font des travaux et ils vont des fois, ils voudront agrandir ici, ils vont casser une tour, détruire une tour.
Oui. Vous avez peur de ça?
Non.
Après, on va
retrouver
à la rue.
Si on n'est pas riche, ben, ça veut dire que s'ils détruisent les tours, ben, ils vont nous laisser dans la rue si on n'est pas riche. Et je pense pas qu'ils nous regardent parce qu'ils ont leur argent, ils s'en fichent de nous. Nous, on est ici, on n'est pas riche comme eux. On n'a pas des belles maisons.
Toi, t'as réfléchi à ça ?
Ben oui.
Pourquoi ?
Parce que et ils ont une entreprise. Nous, c'est des tours d'avant. Elles sont vieilles, ces tours. Eux, elles sont jolies. Et nous, elles sont moches. Et je ne veux plus habiter dedans.
Excusez-moi, bonjour. Je fais un reportage pour France Inter sur la Défense.
Non, pas maintenant.
Vous avez quoi ? Vous travaillez ?
Oui.
Ah, d'accord. Vous travaillez pour la Société Générale ?
Oui. Non,
vraiment. Désolé. Vous n'allez pas répondre.
Non, pas du tout, parce qu'on est en point équipe. Désolé.
Vous êtes en point équipe ?
On travaille, oui.
D'accord. Excusez-moi, vous travaillez pour la Société Générale ?
Non.
Non. Vous n'avez pas envie de répondre, en fait, c'est juste ça.
Ouais, c'est une blague.
Est-ce que vous regardez les tours d'en face, les petites tours beaucoup plus basses? Non.
Non.
Non. Enfin, pour voir quoi, on va... Vous voyez les nuages?
Oui, on a cette chance.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite cité derrière le...
Oui, et donc
Et vous avez regardé justement les tours de la cité de Nanterre? Les tours aïeux, les petites tours rondes?
Je pense que tout le monde les a vues, ouais. Ah non, c'est horrible. Surtout quand il fait gris comme ça, qui peut? C'est l'horreur. Non mais c'est vrai, ça a la forme d'un nuage, c'est censé être joyeux, mais non, c'est pourri. On va remonter.
On va remonter.
Oui.
Vous, je peux vous demander ce que vous faites dans ces fameuses tours? Parce que moi, j'étais dans l'école, la petite école. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une petite école au milieu des tours. Mm-hmm. Et avec des élèves, ils se posent la question, qu'est-ce que vous faites dans les grandes tours?
On joue à l'ordinateur.
D'accord.
La dernière fois, j'ai vu un... Je suis passé, il y avait un clochard. Il était devant moi. Un autre monsieur, il était riche, avec un costard. Il sort de l'argent. Après, il y a le pauvre, il est en train de regarder là. Moi, j'étais le monsieur qui avait de l'argent, j'aurais donné au pauvre.
Il n'a pas donné?
Non, il n'a pas donné. Il fait son intéressant, il prend son argent. Il fait genre, il est riche. Il y a un monde où il y a les riches, un monde où il y a les radins, et un monde où il y a les pauvres, enfin les moyens.
Et toi, t'es dans quel monde?
Moi? Les moyens. Il y a les moyens avant les pauvres.
Il y a encore les moyens?
Oui, et après, il y a les pauvres.
Et les pauvres, c'est qui?
Les pauvres, c'est les clochards qu'on voit dans la rue et qui font pipi dans leurs pantalons. Ils ont un verre en plastique qui demande de l'argent, je sais pas.
Et les moyens?
Les moyens, c'est la cité, c'est comme ça. Tu dois déménager, ils vont détruire ta maison. Ils vont détruire la cité. Quand ils vont casser la maison, moi, je vais me retrouver dehors. Après, je vais être pauvre. Après, il n'y aura même plus de machine à laver. Je ne pourrai pas me laver les vêtements. Je n'aurai rien.
Est-ce que c'est possible de passer du monde des moyens au monde des riches?
Je sais pas.
T'aimerais garder le monde des riches à côté de chez toi ou tu préférerais voir autre chose que...
Les riches et les pauvres.
Quoi, les riches et les pauvres?
Comme ça, s'il y a un riche, par exemple, il y a un pauvre, il est derrière moi, et un riche, il est devant moi. Après, le riche, il sort son argent de sa poche. Moi, je cours, j'attrape son argent, après, je donne aux pauvres. C'est pas mal.
C'est le Robin des Bois d'aujourd'hui, quoi.
Oui. Sauf que j'ai pas de flèche, j'ai pas de chapeau vert. Les gens là, eux qui travaillent dans les tours là, de la défense, les grandes tours, ils sont dans leur bureau tranquille, au chaud, avec une tasse de café à côté d'eux. Alors que nous, on va à l'école au froid. Ça, c'est pas ça.
Tes parents, tu les vois le matin quand même avant de partir?
Il y a que ma mère.
Ton père, il part tôt?
Il travaille dans un hôtel. Il y a des gens, ils habitent là, ils ont, je sais pas. Ils ne peuvent même pas prendre leur tasse de café le matin. Moi, qu'est-ce que j'imagine? Toute la cité dans un bureau bien au chaud avec une tasse de café.
Là, ça enregistre.
Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Lil Wayne, le futur rappeur.
Cocaïne dandine, Samy reçoit quelques clients, porte dauphine. Mademoiselle vient pour avec ses amis intimes. Un gars ou une seringue qui est bim, et bim. L'USS la tue.
Il a pris du pige. Il a pris du fer.
Il a pris du pige. Ça m'a rendu ferme.
Voilà, merci à tous, merci aux enfants. C'était un reportage de Pascal Pascariello. Merci à Monique Pinson-Charlot, à Michel Pinson-Charlot. Vincent, Hélène Constanti, les élèves de l'école Maxime Gorki, leur directrice Laurence Dolivet, ainsi qu'à Philippe Schex. À lire Les ghettos du Gotha, comment la bourgeoisie défend ses espaces, de Monique Vincent-Charlot et Michel Pinson, qui va d'ailleurs être réédité par les éditions Le Point le 25 mars prochain. Vous êtes au courant de tout. Et puis, je rappelle le bouquin d'Hélène Constanti et Pierre-Yves Lautrou, 9-2, le clan du président. Vous retrouverez les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures et faire des commentaires. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Là aussi, vous pouvez faire des commentaires. À la technique aujourd'hui, Fabrice Desmaz et Julien Dumont, Coyen Guyenne, Raphaël Mouter, dont réalisé cette émission modeste et géniale, assisté d'Agnès Lebotte et Catherine Pinto attend vos messages, comme chaque jour, au répondeur de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37 et demain à 15h, nous partons pour le Honduras, ce coup d'État, une résistance héroïque, vous le savez, il y a eu le 28 juin dernier un coup d'État au Honduras, vous le savez ou vous ne le savez pas, et la population du Honduras, les Honduriens se sont soulevés, se sont organisés, ont résisté, ils n'ont pas gagné sauf leur dignité et sauf un avenir prometteur, espérons-le pour eux. On les retrouvera demain à 15h. Il est 16h, vous l'avez entendu sur France Inter. À demain 15h, donc je vous laisse pour les infos avec Angélique Bouin. Salut.
Un nouveau suicide dans un centre fermé pour mineurs. Un adolescent était retrouvé pendu dans la douche de sa cellule ce matin. Cellule du centre pénitentiaire d'Orvault en Loire-Atlantique. Le garçon, âgé de 16 ans, avait confectionné un ballot à forme humaine et l'avait placé sous ses draps afin de ne pas attirer l'attention de ses gardiens. Il est présenté comme un jeune assez fragile psychologiquement et se trouvait en détention dans le cadre d'une procédure criminelle. La nouvelle campagne anti-tabac de l'association Les Droits des Non-Fumeurs crée la polémique. Elle joue, il faut le reconnaître, la provocation en comparant le tabagisme à un acte sexuel contraint. Une publicité vivement condamnée par plusieurs associations, mais aussi par la secrétaire d'État à la famille, Nadine Morano. Au titre de l'outrage public à la pudeur, elle annonce qu'elle va demander l'interdiction de cette nouvelle campagne. Peut-être une avancée vers la fin de la grève dans les raffineries Total. Le groupe pétrolier s'est finalement engagé à ne pas fermer de raffinerie pendant 5 ans. Mais cette décision ne concerne pas celle de Dunkerque au cœur du conflit. C'est une précision du ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, qui annonce également qu'une table ronde sur l'avenir de l'énergie sera organisée au deuxième trimestre de l'année. C'était l'une des revendications des syndicats. Lors d'une suspension de séance des négociations qui se tiennent actuellement au siège de Total à la Défense, la CGT avait précisé qu'elle n'appellerait pas à la reprise du mouvement sans que cet engagement sur une table ronde soit pris, mais aussi sans garantie sur le paiement des jours de grève. Les négociations sont donc encore en cours. À noter qu'aujourd'hui, l'inquiétude a gagné de plus en plus d'automobilistes. Ce matin, à 11h, Total indiquait que quelques 250 des 2600 stations-service des réseaux Elf et Total étaient en rupture de stock d'au moins un carburant. Dans le ciel, le trafic est toujours très perturbé. Cela va durer toute la semaine. Une grève des aiguilleurs du ciel qui s'inquiète d'un projet de fusion du contrôle aérien de 6 pays européens, dont la France. Grève qui doit durer jusqu'à samedi matin. Et les prévisions pour les jours à venir sont les mêmes qu'aujourd'hui. Un vol sur deux annulé à Roissy, un vol sur deux, attention, annulé à Orly. Un sur quatre à Roissy et des perturbations en province. À noter qu'Air France assure qu'elle pourra assurer 100% de ses vols long courrier. Christine Lagarde salue la nomination du socialiste Didier Migaud à la tête de la Cour des comptes. Pour la ministre de l'économie, c'est le choix de l'intelligence. Un choix, je cite, qui honore l'ouverture préconisée et démontrée par le président de la République. Les noms des trois nouveaux sages qui entreront au Conseil constitutionnel seront officiellement connus demain. Mais le casting a déjà filtré dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Et là aussi, on parle d'ouverture. Les UMP Jacques Barrot et Hubert Haenel devraient rejoindre les bancs de l'Union. illustre institution, ainsi que Michel Charras, l'ancien ministre du budget de François Mitterrand. Nouveau signe donc de cette politique menée par Nicolas Sarkozy, mais qui fait déjà grincer des dents. Roland Museau, le porte-parole des députés PCF, Front de Gauche et apparenté, estime que cette politique est problématique pour la démocratie en France. Quand on arrive à ne plus savoir quelle est sa droite et sa gauche, on ouvre en grand les portes du populisme, a-t-il déclaré dans les couloirs de l'Assemblée nationale.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit
dans la plaie,
Tété,
de tes yeux, on devine le venin.
La chose, c'est mon truc.
Baz-Baz.
La chose, c'est mon truc.
Et Ash Burns.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission demain à partir de 18h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter présente Peter Gabriel au Palais Omnisports de Paris-Bercy le 22 mars. Un concert exceptionnel sans guitare ni batterie. À cette occasion, Peter Gabriel sera accompagné de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Retrouvez Peter Gabriel et les nouveaux titres de Scratch My Back dans le programme musical de France Inter.
France Inter. La différence.
16h04, restez avec nous, l'après-midi se poursuit en musique avec vous, Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Il y a des compositeurs qu'on entend très souvent. Si on faisait une statistique, si on regarde sur l'ordinateur même tout simplement, sur franceinter.com, vous regardez les programmes de notre émission, c'est sûr qu'on entend beaucoup Jean-Sébastien Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Debussy, éventuellement, un peu moins quand même, évidemment, en proportion. Et puis, il y a les petits oubliés, il y a ceux qui, quelquefois, se languissent, on va dire, sur les étagères. Ah ben, on va changer ça un petit peu, pas tout le temps, parce que quelquefois, on les oublie pour de bonnes raisons, les compositeurs. C'est qu'ils ont été des petits maîtres en leur temps et que, finalement, leurs paroles, leur musique, leurs gestes n'a pas dépassé leur époque. Ben, il y a aussi des injustices. Voici un compositeur digne d'intérêt. Il s'appelle Evaristo Felice dal Abaco, né en 1675 à Vérone. Et il a été violoncelliste, engagé à la cour de Bavière, à Munich. Le seigneur de Bavière, le prince électeur, menait grand train. Mais allié du roi de France, il a pris part à la guerre de succession d'Espagne. Il s'est baladé beaucoup. Il est allé à Bruxelles, et c'est comme ça qu'Abaco s'est retrouvé aussi en France. Enfin bon, une vie aventureuse, une vie de musicien. Or, les musiciens sont toujours très itinérants de nos jours. Voici le presto du 4e concerto d'église à 4 parties d'Evaristo Felice dal Abaco. Thank you. Presto du 4e concerto d'église à 4 parties d'Evaristo Felice dal Abaco, compositeur italien, je le rappelle, né en 1675, interprété par le concerto Köln. Et un de ses voisins de discothèque, Adolphe Adam. Adam, on l'a un petit peu oublié, pourtant il a écrit le délicieux ballet Gisèle en 1841. Il a écrit quand même 41 opéras comiques et finalement s'est rapproché pas mal de l'opérette qui va s'affirmer avec Jacques Offenbach. On connaît aussi le postillon de Longjumeau de 1836 et puis un peu moins la jolie fille de Gand, pourtant c'est bien troussé, on peut dire. Dans le deuxième tableau, il y a une salle de bal au palais, et puis une cracovienne, ça aurait fait plaisir à Frédéric Chopin de connaître cette pièce-là, si ça n'a pas été le cas, en tout cas, c'est vraiment digne de ces musiques populaires, notées sur le papier par des musiciens qui connaissent leur métier.